Virage Marseille avec Oco, une filtration fiable pour votre eau.
Sur tous les terrains de la vie, soyez protégés. Virage Marseille avec Mutuelle du Soleil. Santé, prévoyance, auto, habitation.
Bonsoir à tous, bienvenue ici à Fos-sur-Mer pour un virage Marseille particulier. On va parler de l'étoile sportive phocéenne qui vise les sommets de ce football français. On est avec, dans cette première partie, Madame Roubi, première adjointe au maire de Fos-sur-Mer, et Monsieur Goncalves, président du club. On va parler avec vous des ambitions de ce club pour cette ville avec ce magnifique stade parsemin. Et je vais commencer par vous, Madame Roubi. On a un magnifique outil qui est le stade parsemin que la ville de Fos veut accompagner dans le développement de ce club avec ce stade.
Tout d'abord, bonsoir, bienvenue à Fos-sur-Mer et plus particulièrement sur notre magnifique stade parsemin. Effectivement, depuis le 1er janvier 2025, Fos-sur-Mer a repris pleinement la main sur son destin sportif. Parsemin n'est plus un équipement partagé, c'est un outil stratégique au service du territoire.
Alors, je me tourne vers le président. D'avoir un outil comme celui-ci pour faire évoluer un club, c'est toujours plus facile avec ce stade qui est vraiment, j'allais dire, professionnel. Mais oui, on peut accueillir des équipes professionnelles et pour un club, c'est important.
Bien, ben, bonsoir à toutes et tous. Oui, effectivement, avec un stade comme ceci, on ne peut que se régaler. Ça fait venir des joueurs, ça fait venir les enfants qui découvrent un stade où, effectivement, là, c'est un stade de Ligue 1, Ligue 2. C'est quand même le deuxième du département,
derrière l'Orange Vélodrome.
Donc, à partir du moment où il est vraiment maintenant venu à la municipalité, merci, c'est un plus, il n'y a pas photo.
Comment on essaye de replacer le club j'allais dire à sa place qui est Fos-sur-Mer avec ce stade, et c'est important pour la ville d'accompagner ce développement de l'étoile sportive phocéenne.
Tout à fait, l'importance est majeure. Nous souhaitons une attractivité forte du territoire, nous souhaitons embellir aussi ce stade et surtout offrir aux clubs sportifs qui viennent évoluer au sein de ce magnifique stade la possibilité de pratiquer leur sport dans de meilleures conditions. Nous sommes ravis aujourd'hui que le SFOS et autres puissent pratiquer et les accompagner de façon à ce que les phocéens, les adhérents pratique dans de meilleures conditions possibles.
Fos mérite d'avoir un club de haut niveau en football.
Fos mérite d'avoir beaucoup de clubs de haut niveau, pas que le foot, mais là nous parlons que du foot, mais effectivement nous avons sur le territoire de nombreux athlètes, de nombreux joueurs qui performent, et donc du coup c'est une grande fierté pour nous, et nous devons mettre et réunir toutes les conditions possibles pour évoluer et surtout avoir une attractivité du territoire à la hauteur de nos joueurs.
Alors je vais me tourner maintenant vers le président. On sait que le SFOS se veut ambitieuse pour les années à venir, les saisons à venir. Parlez-nous un petit peu de votre projet. Qu'est-ce qui se met en place ici à Fos-sur-Mer?
Ben, le projet, en fait, il a été mis en place l'année dernière. On l'a présenté. En fait, c'est l'objectif, c'est que déjà, on va commencer par les jeunes, parce que c'est le plus important. Le vivier, c'est nos jeunes. L'objectif, c'est qu'ils soient à un niveau supérieur à celui qu'il a à l'heure actuelle. Ça va pas se faire du jour au lendemain. On tape sur... Nous, on a un projet de 2030-2032. Donc, les jeunes au niveau, au minimum, ligue, qui va permettre de retrouver un jeune dans l'équipe Fagnon, qu'elle soit en National 3, et on espère, effectivement, 2030-2032, la Ligue 3. Donc il y a des points de passage obligés.
Il y a vraiment des ambitions professionnelles.
Oui, l'objet. Bah, de toute manière, on parle de professionnels. En National 3, on est parti à 148 clubs. Nous, on est en National 3 depuis 3 ans. On a toujours eu la chance d'être sur le podium. Là, je prends cette année, on n'est plus que 112 clubs. Donc quand on parle de pro, on est dans le monde pro déjà. La Fédération Française de Football fait qu'on soit un monde pro. Donc à partir de là, nous, on a la chance d'avoir une municipalité présente. Et en plus, on a les installations. Est-ce qu'il y a très peu de clubs qui ont. Donc on a un devoir que nos jeunes, ils atteignent le haut niveau. Il n'y aura pas tout le monde, mais on doit leur donner les moyens. Et ils ont les moyens de faire.
justement, vous parlez de cette formation. On sait que le département des Bouches-du-Rhône a un vivier énorme en termes de football, peut-être le deuxième après l'Île-de-France. Est-ce que c'est vraiment ça la clé aujourd'hui pour développer le football en Provence, d'avoir des bases solides pour la formation ?
Oui, je pense que ça fait partie de... Oui, c'est... Pour moi, oui, ça fait partie. La formation, c'est, pour moi, c'est plus important. Les joueurs qui sont en National 3, nous, à notre niveau, on a quelques-uns qui ont fait leur gamme au niveau du club et ils sont toujours présents, dont le capitaine qui passera tout à l'heure. Sans formation, il n'y a pas de joueurs. Donc, effectivement, dans les Bouches-du-Rhône, la problématique qu'on a, c'est qu'on voit des clubs où ça monte vite. Malheureusement, ça redescend aussi vite. Nous, on va doucement. On va dans la mesure du possible, suivant les budgets, suivant si on peut ou pas. Mais la formation fait partie, oui, il faut de la formation.
Et justement, est-ce qu'il y a les infrastructures ici à Fos-sur-Mer? Et peut-être que l'adjointe au sport pourra répondre à ce sujet. Est-ce qu'il y a aussi des projets de développer ces infrastructures? Parce qu'on sait que les centres de formation, il faut des logements pour les jeunes, aussi des infrastructures pour s'entraîner. Est-ce que ça aussi, ça fait partie du développement de Fos-sur-Mer?
Bien sûr que ça devrait faire partie du développement et de l'attractivité du territoire. On ne peut pas passer à un niveau supérieur si on ne remplit pas toutes les conditions et un cahier des charges bien établi. Nous arrivons à peine à la gestion de la ville depuis seulement un mois. Je pense que nous avons déjà fait pas mal de choses. J'ai rencontré beaucoup de présidents. J'entends leurs besoins, leurs attentes aussi. Et petit à petit, nous redynamiserons le sport. Parce que, bon, avec ma délégation, Cyril, j'ai une appétence sur le domaine sportif. Et à nous d'écouter, rien ne se fera sans l'aval et surtout l'écoute des présidents pour monter au plus haut niveau. Ici, le sport ne se regarde pas, il se construit. Et tout se fera en concertation et en remplissant bien évidemment les cahiers des charges.
Alors, on le disait en début d'émission, vous avez un magnifique stade. Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui à l'Étoile Sportive Fosséenne pour passer encore ce gap et de monter en Ligue 3, qui est l'objectif affiché d'ici 2032, c'est ça ?
C'est ça, oui. En fait, oui, on s'est fixé. De toute façon, on travaille qu'à l'objectif au club. Mais qu'est-ce qui manque ? Des supporters, du public. Mm-hmm. C'est tout ce qui manque, en
et
fait.
Et comment on les amène, ces supporters ?
Ben, on essaye de trouver des parades. Hein. C'est déjà là, bon, on en parlera tout à l'heure, le samedi 9 mai, c'est gratuit. Voilà, on espère que les parents avec leurs enfants de partout viennent voir un beau match. C'est quand même le deuxième contre le troisième. Hein. Je dérive de ce que vous avez parlé tout à l'heure, mais bon, ça fait partie. Et sans public, c'est compliqué, c'est le deuxième homme. Donc le stade, pour le remplir, c'est compliqué. Pourquoi ? On ne sait pas. Même quand c'était en Ligue 1, Ligue 2, moi je me rappelle, Istres jouait, il n'était pas rempli. Là, on commence à avoir du monde. Il y avait encore du monde samedi dernier. Donc on essaye de trouver des solutions.
Des solutions qui passent peut-être par des anciens joueurs de l'Olympique de Marseille. Je sais que dans Virage Marseille et dans les avant-matchs, on a reçu Brice Djadjedjé cette semaine. Ça fait partie aussi du projet d'arriver à ramener des têtes de gondole dans l'équipe pour la faire progresser et attirer justement ce public ici à Parsemin.
Oui, il y a certains joueurs comme Brice. Lui, c'était bien sûr pour nous renforcer par rapport à son expérience, hein, venant de l'OM, il n'y a pas photo. Mais effectivement, ça donne une attractivité et les enfants, bah, ils se dépassent un peu plus quand ils savent qu'il y a Brice Djadjedjé qui est sur le terrain ou en tribune avec nous. Et qui est en plus ouvert à tout. Donc effectivement, on essaye aussi de trouver des têtes d'affiche. C'est vrai.
Des têtes d'affiche. Est-ce qu'il y a aussi cette comparaison avec l'Olympique de Marseille dont vous souffrez un petit peu ? Est-ce que les supporters de Fos qui vont voir les matchs de l'OM, bah, finalement, il faudrait aussi les attirer ici à Parsemin ?
Ouais, là en fait, il y a plusieurs questions. Non, la première, effectivement, ici, le club de cœur, c'est Marseille. Nous, on sera secondaire. Donc, il faut trouver le juste milieu. Après, c'est vrai que quand on joue le samedi à 18h et que Marseille joue samedi à 17h, on est mort. Mais on a quand même nos quelques supporters à nous qui sont présents. Mais non, il n'y a aucune animosité puisqu'on est en partenariat quand même avec l'OM depuis 2017. Mmh. On est le premier club à avoir fait un partenariat qui est toujours d'actualité. Donc il faut trouver le juste milieu.
Le juste milieu entre l'OM et Fos-sur-Mer. Est-ce que créer des groupes de supporters, créer cette ambiance aussi, ça fait partie des projets quand on est un club professionnel, qui se veut en tout cas professionnel, créer une atmosphère en fait, finalement, à Parsemin, ça fait partie des projets que vous avez en tête.
Oui, tout à fait, mais ça fait partie du projet. On a Patrick là, qui est arrivé il y a 6 mois, qui se plaît au club, qui nous met l'ambiance à lui tout seul. Donc on espère qu'il va trouver plusieurs personnes pour l'accompagner et du monde. Mais oui, ça fait partie du projet. On mettra les moyens pour justement mettre de l'ambiance dans les tribunes. Ça fait partie du jeu.
On n'en a pas encore parlé, il y a un contexte économique qui est des fois compliqué pour le football français. Est-ce que là aussi, quand on est un club qui se veut monter, il y a des difficultés économiques pour trouver peut-être des partenaires et être, j'allais dire, sur le plan financier, stable, à l'équilibre pour encaisser toutes ces dépenses qui peuvent être des fois inhérentes au club de notre département?
Je vais répondre, elle va être très rapide la réponse. Sans la municipalité, comme la majorité des clubs sur Fos, on peut pas survivre. Notre premier subventionneur, c'est la municipalité, que je remercie puisque c'est reconduit. On va passer à la DNCG fin mai. Quand ils voient les subventions que la ville attribue à toutes les associations sportives, ils sont par terre. Ils comprennent pas. Ils sont contents pour nous, mais ils tirent le chapeau. Ils les remercient sincèrement de ce qu'ils font pour le sport. Et je parle de la ville. Hein. Après, attirer des sponsors, oui, on essaye. Ce soir, on va faire un business club. Donc en fait, c'est des insights qu'on fait par rapport à des lieux culturels ou pas de la ville qu'on met en avant. Et ce soir, ça sera le lieu, ça sera le stade avec la vie d'un coach avec son groupe. Et effectivement, on a plus d'une vingtaine de sociétés qui viennent et dont Madame Ruby, Isabelle, l'élu au sport qui vient nous accompagner. Et c'est vrai que ça nous aide beaucoup puisque les sociétés sont friands de la nouvelle municipalité, de les rencontrer, discuter, et ça peut permettre d'ouvrir des portes.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci Président, merci Madame la Première Adjointe à Fos-sur-Mer d'avoir été les invités de ce Virage Marseille exceptionnel depuis le stade Parsemin, Virage Marseille consacré à l'étoile sportive phocéenne. Dans cette deuxième partie, on va parler de ce match ultra capital qui attend l'équipe ce week-end ici à Parsemin. À tout de suite. De retour au stade Parsemin pour cette deuxième partie de Virage Marseille exceptionnel consacrée à l'étoile sportive phocéenne. On a reçu il y a quelques instants l'adjointe au maire et le président du club. On va s'intéresser maintenant aux sportifs avec Jonathan Di Maria, coach adjoint de cette équipe de l'étoile sportive phocéenne, et Michael qui est capitaine de cette équipe. Messieurs, il y a un match capital et on va commencer par ça qui arrive dès samedi, un match pour la montée. Comment vous l'avez préparé? Comment vous l'abordez ce match-là, un match pour une qualification potentielle en national de l'année prochaine? Allez John, pour commencer.
Ben, on l'aborde de la meilleure des manières qu'on puisse l'aborder parce qu'on a fait un bon résultat à Lyon-la-Duchère il y a deux semaines. Donc on est en confiance, on travaille beaucoup, on travaille fort pour mettre en place nos principes et nos principes de jeu. Donc on est assez confiant maintenant. On sait aussi que l'humilité est très très importante. On joue contre le troisième qui a un point de nous. Et donc on est confiant et humble à la fois.
Oui, parce que vous avez battu Lyon-la-Duchère qui est donc actuellement leader de ce championnat de National 3. Et là, vous allez affronter le troisième, fin de championnat assez compliqué, assez dur, mais pour l'instant, vous faites un sans faute.
Un sans faute, oui et non. Parce qu'on a fait deux faux pas, deux revers contre Alès à la maison et Montpellier chez eux. Mais on est toujours en course, on est quand même point grâce à la victoire il y a deux semaines. Donc il reste encore deux matchs, donc, ce qui veut dire six points. Donc tout est jouable encore jusqu'à la fin de saison. Quoi.
Alors racontez-nous un petit peu comment ça se passe dans le groupe en ce moment. Qu'est-ce que vous discutez peut-être un petit peu de cette montée, parce qu'on sait que le club a cette ambition de retoucher en tout cas au monde professionnel dans les saisons à venir. Est-ce que là on y pense, on est vraiment focus sur ça, on en parle à l'entraînement, dans le vestiaire un petit peu de ce match qui s'annonce capital, voilà, on l'a dit, pour la montée?
Pour le vestiaire, oui, tous les garçons on est tous concernés, on sait qu'il y a un enjeu. Mais il n'y a pas plus de pression que ça, comme sur les deux semaines là, qui sont passées, on n'a rien changé aux entraînements, on s'entraîne toujours de la même façon. Comme le coach nous a dit, il n'y a pas de changement, c'est ce qu'on sait faire et on ne va pas changer parce que c'est un match important.
Et c'est quoi les mots du capitaine dans ces cas-là?
Le mot du capitaine, c'est que moi je suis là pour vous aider au mieux, et les garçons ils ont énormément de qualité et de confiance en eux. Il y a beaucoup de talent et je leur fais confiance à 100%. Quoi. Je sais qu'ils répondront présent. Donc moi je suis juste là pour les accompagner. C'est comme un rôle de grand frère. Il n'y a pas de je sais pas comment expliquer. Il n'y a pas de directive ou quoi. Je suis juste là pour les accompagner.
Jonathan, comment on le prépare ce match-là? Voilà, on le disait, vous n'avez pas forcément votre destin entre vos mains. Il faut absolument gagner, quoi qu'il arrive, pour espérer monter. Mais c'est un match particulier parce que vous êtes dépendant quand même du résultat de Jean Laduchère.
Oui, complètement. Comme l'a dit Mika, avec les deux revers qu'on a subis face à Montpellier et à l'Est, ça a fait qu'on n'était plus maître de notre destin. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait l'emporter samedi parce que si Lyon Laduchère faisait un mauvais résultat, on l'aurait quand même en travers. Mmh. Donc après, c'est une fin de saison palpitante. On ne pouvait pas rêver mieux finalement. On est là, on est tous à un point, donc c'est palpitant en tant que joueur et en tant que coach. C'est des saisons qu'on aime tous faire finalement.
Justement, parlez-nous un petit peu de cette saison. Voilà, vous jouez les hauts tableaux cette saison avec un groupe qui est un mélange expérience et jeunesse. Comment vous l'avez vécu cette saison de l'intérieur avec, est-ce qu'il y a cette ambition de se dire on va monter, on fait partie d'un projet qui vise les sommets en tout cas du championnat de France, du football français?
Pour ma part, c'est ma première expérience en tant qu'entraîneur adjoint. Il n'y a pas si longtemps, je me retrouvais à la place de Mika, j'étais le capitaine de l'équipe. Donc je vais parler en tant que coach, quoi. En tant que dirigeant, on a un peu plus de hauteur, mais c'est vrai qu'on a commencé la saison, on a mis des nouveaux principes de jeu en place, donc ça a été un peu plus compliqué, ça a été un peu plus long à prendre. On a trouvé une équipe avec beaucoup de qualité, avec beaucoup d'humilité et de travail, et de grande qualité. Donc à partir du moment où on a réussi à trouver la bonne formule, ça a plutôt bien marché, surtout sur la deuxième partie de saison. Donc moi en tant que personne du staff, ça reste quand même une première saison réussie. C'est sûr que moi en tant que joueur, chaque match je voulais le gagner. Je suis rentré sur le terrain, c'était pour gagner un match, et en tant que coach c'est pareil, pas pour faire un match nul ou on va perdre, non, on veut gagner. Donc partant de ce principe, chaque saison je les ai joués pour monter. Celle-là c'est la même.
Michael, comment on l'a vécu cette saison en tant que joueur?
En tant que joueur, il y a eu beaucoup de rebondissements. Donc, au début, on n'était pas très bien parti. Après, on a su revenir. Et à la trêve, on était à 9 longueurs du premier. Avec un match en plus. Et deuxième partie de saison, on a su grappiller les points. Grâce à nos victoires, on avait enchaîné 7 victoires consécutives.
Il y a eu un moment bascule dans cette saison. Vous le disiez, à la trêve, vous étiez à 9 points, voire plus, parce qu'il y avait un match en avance. Est-ce qu'il y a eu un moment fondateur, peut-être que vous pouvez nous en parler, vous s'est dit, allez, là, on est passé vraiment du bon côté de cette saison?
À 9 points, on s'est dit qu'on n'avait plus rien à perdre, quoi. Donc, en enchaînant match après match, comme j'ai dit, on a su grappiller des points. Et au bout d'un moment, on a vu qu'on avait recollé la tête du championnat, et après on s'est permis d'y croire, même si on y en a toujours cru, mais là c'était vraiment réel. Donc et là aussi, à l'heure d'aujourd'hui, vu qu'on est à un point, donc on y croit toujours, quoi.
Vous le disiez, un nouveau staff cette saison, des principes de jeu qui ont été différents. Justement, c'est quoi les principes de jeu de l'Étoile Sportive Phocéenne? C'est quoi la philosophie que vous, le staff, essayez de mettre en place ici?
L'expliquer, c'est compliqué en quelques mots, mais déjà humainement, c'est d'être en accord avec nos valeurs, nous, staff. C'est-à-dire, on essaie d'être honnête dans nos choix, sincère à chaque fois qu'on parle à des joueurs. Après, au niveau technique, on prône quand même le jeu. On cherche à jouer, on cherche à faire du jeu. Et ils ont très, très bien répondu cette année. Et pour revenir sur la question précédente, le déclic, ça a été un petit peu, justement, au match aller face à Bourgoin-Jallieu, où on perd 3-0 là-bas. Et qu'on se retrouve à 9.2 et ils ont un match de retard. Donc là, on s'est dit, bon, c'est même pas, on n'a plus rien à perdre, c'est qu'on a tout à gagner, quoi. On est au mur. Ouais. Parce qu'il fallait se lâcher, en fait, finalement. Suite à cette défaite, bam, ça fait un genre de déclic. On va y aller. Les gars, ils y sont allés. Ils ont répondu très, très, très bien.
Ouais, c'est un visage différent de l'équipe juste après cette défaite 3-0 là-bas.
Ouais, le retour a été difficile. Bourgoin-Jallieu, c'est pas à côté. Un minibus, ça fait un peu long. Mais ouais, il y a eu cette défaite qui nous a marqué, qui a été marquante un petit peu. Et finalement, aujourd'hui, samedi, on joue contre Bourgoin-Jallieu. Ils sont un point derrière nous. Et on est encore dans le coup. Comme quoi, le foot.
Alors messieurs, je vais vous poser la même question que j'ai posée à nos invités précédemment. Vous êtes dans un stade magnifique, le deuxième stade ici dans le département en termes de capacité. Le but, c'est de le faire rêver, vibrer ce stade, de le remplir aussi. Est-ce que vous sentez que vous pouvez emmener tous ces phocéens dans cette histoire avec vous et pourquoi pas monter à la fin de cette saison?
Déjà, c'est bien de souligner l'outil de travail qu'on a, parce que il est quand même fantastique pour une N3. On voit par semaine, il y a aussi l'allée des Pins, il y a le stade des Marais. Donc le club est en association avec la mairie, nous mettent des moyens en place techniques. Donc déjà, c'est vraiment, vraiment intéressant.
Vous êtes dans des bonnes conditions pour faire, performer.
Très, très bonnes conditions. On est dans de très... Regardez la pelouse. Le terrain, c'est fantastique. Après, c'est sûr que jouer une montée, ça crée de l'engouement aussi. Donc c'est sûr que voir... moi, je crois que c'est ma 12e, 13e saison à Fos. Ouais, bon bref, quand on aime, on compte pas. Mais créer de l'engouement, c'est bien. Et je l'ai vécu en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, c'est vrai que c'est émouvant. Donc ouais, on espère que les Fosséens vont nous suivre sur cette fin de saison et qu'on va pouvoir leur donner ce petit truc. Quoi.
Et justement, avant de donner la parole à Mickaël, Jonathan, est-ce que tu as vu une évolution dans ce club? Tu disais ça fait 12 ans que tu es ici. Est-ce que tu vois une évolution dans l'ambition peut-être sportive, mais aussi voilà, dans l'engouement auprès des supporters?
Ah non, déjà je vois une évolution déjà au niveau des infrastructures, au niveau du club qui s'est plus structuré, au niveau des entraînements qui sont aussi plus structurés, au niveau de l'effectif qui est plus nombreux et de meilleure qualité. Et il y a plus de vie, ouais, ça vit plus. Le club vit mieux, ils ont fait des beaux projets marketing aussi. Ils font vivre, les bénévoles du club font bien vivre le club. Et c'est sûr que moi, je trouve qu'il y a eu une évolution. Et une évolution très, très positive, pour ma part.
Mickaël, sur l'engouement, les joueurs, vous y pensez à ramener du monde dans ce stade parsemin?
Oui, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le plus de monde possible les week-ends. Et après ça vient avec les résultats. Les bénévoles et les dirigeants, ils font le nécessaire à côté avec tout ce qui est les réseaux sociaux pour faire venir le plus de monde possible. Après, nous, en tant que joueurs, c'est sur le terrain où on doit le rendre aux supporters. Donc, en ayant de bons résultats, on sait qu'on remplit la tribune.
Alors, une dernière question, on arrive à la fin de cette émission. Jonathan, comment ça se passe ce week-end? Qui peut venir vous soutenir pour ce match capital pour la montée? À quelle heure? Et est-ce que c'est... Je crois que c'est gratuit, les places, ce week-end. Comment ça se passe pour réserver, prendre son ticket?
Entrée gratuite au niveau de la billetterie qui se trouve juste devant le stade. Donc, venez nombreux. Venez passer un bon moment avec beaucoup d'émotions. Le football, c'est ça aussi. C'est les émotions, il ne faut pas l'oublier. Donc, on espère qu'on rendra heureux nos Fosséens. Et la suite, ça sera 20h15, hein, finalement. Donc, le match, début du match, 18h. Et ouais, les places, 17h30.
Et on espère un dénouement heureux à cette saison. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été les invités de ce Virage Marseille exceptionnel ici au stade Parsemin de Fos. Un Virage Marseille donc que vous avez vécu spécial Étoile Sportive Fosséenne. Vous restez avec nous sur BFM Marseille Provence. La formation revient dans un instant. À tout de suite.
C'était Virage Marseille avec Coco, une filtration fiable pour votre eau.
Sur tous les terrains de la vie, soyez protégés. Virage Marseille avec Mutuelle du Soleil, santé, prévoyance, auto, habitation.